Suite du festival, elle chante, compose, dirige. On n'est pas à la Cité de la Voix cette fois. Nous sommes toujours dans Lyon, à Brosse avec Mariana Delgadillo. Un spectacle ce samedi soir intitulé Sucrerie. C'est un peu une face ici. Quand on dit sucrerie, on pense à sucre à la française et il n'est pas question de cela.
Pas du tout. C'est un jeu de mots qui ne marche qu'en France pour le coup. Parce que notre programme est axé sur de la musique qui vient de la ville de Sucre, en Bolivie.
Comment vous présentez ? Musicienne, bien sûr, chercheuse, passionnée d'archives, professeur, pédagogue. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
Ce qui me tient le plus à cœur, je dirais, c'est de partager tout d'abord un patrimoine qui a été peut-être moins connu pendant un temps, tout simplement parce que la culture bolivienne, elle a été très vite identifiée avec les musiques traditionnelles ou aux musiques des Andes pendant un certain moment, en France surtout, alors qu'il y a un répertoire qui date d'encore plus loin, qu'on connaît pas, et qui a vécu en même temps, on va dire, que les productions musicales qui ont été faites dans les temps coloniaux.
Alors la période qui vous intéresse, c'est 17e, 18e siècle surtout, c'est-à-dire au moment où les Espagnols arrivent en colonisateurs et bien escortés souvent par les jésuites.
Oui, complètement. D'ailleurs, à ce propos, la ville de Sucre, elle est aussi intéressante historiquement autour de ça, parce que c'était l'une des villes dans les territoires des colonies espagnoles en Amérique du Sud, l'une des villes où les prêtres jésuites notamment, mais aussi les franciscains, avaient réussi à obtenir des autorisations spéciales de la couronne, notamment pour éduquer et enseigner la littérature, mais aussi la musique aux indigènes. Cette autorisation avait été accordée par la couronne, notamment parce que c'est une ville très forte économiquement.
Mais quelle musique va-t-on pratiquer à ce moment-là ? Alors, j'imagine que les gens d'église amènent leur tradition européenne et puis ils vont se confronter avec la pratique autochtone.
Ah oui, alors là, complètement. L'idée de la couronne, c'était que cette autorisation ne concerne que la musique qui venait donc évangéliser. Ce qui était intéressant, comme dans beaucoup d'histoires de beaucoup de lieux, c'est qu'il y a bien évidemment de la résistance. Donc pour faire avec, ils ont trouvé des moyens pour trouver des points de rencontre où, ok, on apprenait à faire la musique européenne, mais en même temps on engageait des indigènes ou même des Africains, comme dans certaines églises au Mexique, pour apprendre à faire ces musiques. Et du coup, en conséquence, ces musiciens, ils apprenaient la musique, ils allaient travailler peut-être en dehors des églises, dans d'autres répertoires. Donc là où c'est pour moi intéressant, c'est que grâce à ça, grâce au fait qu'il y a eu des musiciens natifs qui ont appris à faire la musique, qu'après, on a eu de la musique écrite traditionnelle. Parce que le problème avant l'arrivée des Espagnols, c'est que toutes les musiques qui étaient pratiquées, elles n'étaient pas écrites, donc on les a perdues.
Est-ce qu'on peut comparer le type de document que vous trouvez à Sucre à ce qu'on trouve lorsqu'on s'intéresse à la musique au 15e, 16e, c'est-à-dire où on a essentiellement des basses chiffrées, quelquefois un peu plus, mais en tout cas pas des musiques complètement écrites, complètement réalisées comme elles le seront après la période baroque?
Oui, complètement. Il s'agit du même type de document, c'est-à-dire on va voir la polyphonie vocale écrite, on va dire, en parties séparées. Et puis après, une sorte de résumé musical qui va être la basse, où on peut imaginer, selon les cérémonies, qu'il y avait peut-être juste un orgue ou juste une harpe, ou alors plein d'instruments qui doublaient et qui accompagnaient, selon l'importance de la célébration. Donc ce sont des musiques écrites, mais d'une manière très très légère, et donc qui permettent justement d'imaginer pour nous interprètes aujourd'hui tout plein de possibilités.
Mariana Delgadillo, parlez-nous de cet ensemble que vous avez créé, enfin, qui va fêter ses 10 ans finalement, l'ensemble Alchimia, créé en 2014.
Oui, alors cet ensemble est tout d'abord une aventure humaine, puisque nous sommes des amis d'amis qui nous sommes rencontrés pendant des études au CNSM, au Conservatoire National Supérieur de Lyon. Donc beaucoup de gens qui venaient des départements de musique ancienne, puis chanteurs, chanteuses et compositeurs. Parce que notre idée en créant cet ensemble, c'était de proposer des programmes qui mettent en avant la transversalité entre les répertoires éloignés. Donc par exemple ici, pour samedi, ça sera musique baroque et traditionnelle, mais dans d'autres programmes, on ira chercher plutôt l'intervention des compositeurs et compositrices pour créer à nouveau pour des effectifs qui incluent des instruments anciens. C'est la particularité que l'ensemble a, c'est que même si on est dans un cadre complètement de recherche, d'expérimentation ou même de technologies nouvelles, on va toujours faire appel à des instruments anciens et à des voix.
Parce que si je reviens vers votre biographie, vous pouvez travailler donc sur ces archives trouvées en Amérique latine 17e, 18e siècle, mais on vous retrouve aussi aux côtés de aux côtés de compositeurs contemporains.
Oui, c'est vrai que ça fait un peu un parcours un peu éparpillé. Et en même temps, ce que je pratique au niveau de la création contemporaine, pour moi, est toujours relié à quelque chose qui a été exploré depuis déjà bien avant. Donc en fait, tout ce que je fais dans les répertoires anciens, et même plus anciens que ça, parce que avec l'ensemble, on a par exemple des programmes aussi du Moyen-Âge, me permettent de mieux comprendre et de mieux connaître les propositions créatives, c'est-à-dire qui peuvent être nouvelles, mais toujours inspirées d'une identité sonore qui existe déjà quelque part dans l'univers, si j'ose dire. Et aussi, pour moi, le point commun entre être dans la recherche des répertoires anciens, c'est presque un tout petit peu comme être, quand on est interprète de la création contemporaine, on est un tout petit peu à la recherche aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va sonner, qu'une fois qu'on aura vraiment mis les pattes dans le son. C'est pour ça que l'ensemble s'appelle Alchimia, qui veut dire alchimie.
Quelle est la pierre philosophale de cette alchimie-là?
Alors pour moi, ça serait que tout est connecté.
Thank you.
Daniela Delgadillo, vous êtes donc samedi à Brosse. Alors il y a une mise en oreille à 18h à la salle des fêtes, concert à 20h dans l'église Saint-Andoche. Et puis on va vous retrouver à la fin du festival, et cette fois à Arquestan, à la Saline Royale, pour un stage. Alors là, qu'allez-vous proposer à vos stagiaires?
Alors je veux leur proposer 4 transcriptions que j'ai faites moi-même des vilains psychos. Donc ce sont les formes un peu traditionnelles qu'on retrouve dans le répertoire baroque en Amérique du Sud. Donc 4 transcriptions de 4 chants à 4 voix. Ce sont des pièces, des manuscrits inédits qui sont à l'Archive nationale de Bolivie que j'ai transcrits. Et puis, ils vont avoir la chance d'être accompagnés par 3 musiciens de l'ensemble qui ont déjà un tout petit peu l'habitude de cette musique et qui peuvent justement porter au mieux ce que j'ai essayé de leur transmettre. Et un arrangement d'une pièce qu'on peut appeler traditionnelle ou d'un chant populaire bolivien qui est fait, de mon point de vue, sur une basse de Jacara, qui est une basse un peu typique de la période baroque.
Mariana Delgadillo, les musiques qui ponctuent notre conversation, ce sont des fichiers que vous nous avez gentiment envoyés. Il n'y a pas de disque?
Pas encore. C'est un choix, parce qu'à nouveau, ce programme, comme tous les autres programmes, pour nous est vraiment une recherche. Et ce n'est que depuis 2022 que j'estime qu'on a trouvé quelque chose. Au niveau du son de l'ensemble, au niveau du swing, au niveau de la passerelle entre les musiques baroques
et
traditionnelles.
Donc on va pouvoir fixer.
Oui, on va le voir fixé. En 2024, on a le projet d'enregistrement du disque avec le label Acte 6.
À Brosse, dans Lyon, à l'église Saint-Andoche, ce samedi soir dans le cadre du festival. Elle chante, compose, dirige. C'est à 20h, stage aussi à Arquestan à la fin de ce mois. On met les liens sur le site de BFC Classique.